I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous de nouveau pour parler aujourd'hui des Giants. Et pour parler des Giants, qui d'autre que Raphaël Masmejean. Comment ça va Raphaël? Pardon, j'ai un petit peu écorché ton nom de famille, Masmejean, pardon.
Pas de soucis Lucas, salut à tous.
Et avec nous, Raoul Villeroy aussi qui semblait hypé juste avant qu'on commence par les Giants.
Ouais, salut tout le monde.
On va parler des Giants, messieurs, des Giants qui sortent... d'une victoire en playoff l'an passé, c'est pas tous les ans hein, qu'on peut dire ça. Ils ont battu les Vikings, ils ont ensuite perdu face aux Eagles lors du Divisional Round. Ils avaient terminé la saison avec 9 victoires, 7 défaites et un match nul. Ils ont recruté cette saison les Giants, désolé. Ils ont recruté les Giants, ils ont recruté Darren Waller notamment, c'est le gros recrutement de la saison, le tight end. Ashon Robinson aussi, Bobby McCain, Rakim Nunez-Roches, Bobby Okereke, le linebacker, Paris Campbell, Cole Beasley, Jamison Crowder. Voilà, plein de noms qui sont arrivés du côté de New York. On a prolongé Andrew Thomas, on a gardé aussi Saquon Barkley, on le sait désormais. On a gardé Daniel Jones aussi, le quarterback qu'on a signé avec un contrat. Dexter Lawrence est resté, Sterling Shepard aussi, Darius Slayton, puisqu'on parle des receveurs, Matt Breda sont restés. Il y a eu quelques départs, Kenny Golladay est parti, Nick Gates est parti, John Feliciano aussi, Justin Ellis, Tony Jefferson, Nicholas Williams, London Collins, Richie James, Fabian Moreau sont partis. Et puis, on a drafté un cornerback, Deontay Banks, notamment du côté de New York. Messieurs, New York, on le sait, c'est toujours catalyseur de beaucoup de choses. Ça a fait les playoffs l'an passé, Raphaël, dans une division qui va être très compliquée cette saison. Est-ce qu'ils ont les moyens de lutter face, on le rappelle, hein, aux Cowboys, aux Eagles, aux Commanders peut-être dans une moindre mesure, mais face aux deux mastodontes que sont les Philadelphia et Dallas?
Écoute, du coup, ça va sans doute donner le ton de la pastille, ou en tout cas le ton de ce que moi je pense de cette équipe. Mais non, je ne crois pas qu'ils ont les moyens de lutter avec les Eagles, en tout cas. Dallas, je n'y crois pas non plus, mais on pourrait toujours en discuter parce que Dallas, c'est toujours un peu particulier. Mais non, pour moi, ils sont encore inférieurs aux deux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne progressent pas, ça ne veut pas dire que... qui n'a pas un bon effort, une bonne dynamique du côté de New York, mais pour moi, ils sont encore en dessous de ces deux équipes.
J'aime qu'on donne le ton d'entrée, comme ça, les auditeurs, ils savent à quoi s'attendre. Raoul, est-ce que tu vas donner le ton aussi? Est-ce que tu vas suivre le ton de Raphaël ou vas-tu partir sur un autre ton?
Je vais suivre Raphaël. Effectivement, la division est compliquée, mais pas que la division. Ils ont un calendrier qui est très dur. On y reviendra, enfin, que je trouve très dur. On y reviendra en fin de pastille. Et je la trouve quand même intéressante, cette équipe des Giants, parce que ils gardent l'ADN un peu en attaque, qui est le duo Daniel Jones et Saquon Barkley. L'an dernier, j'ai regardé un petit peu pour votre gouverne, messieurs, sur les 10 victoires qu'ils font. Et le match, il y a un match nul aussi. Il y a 8 points d'écart ou moins à chaque fois. Et donc, c'est une équipe qui est un peu sur le fil. À voir de quel côté du fil ils vont se trouver cette année.
Oui, c'est vrai que c'est rarement bon signe. Alors après, on peut dire que le coaching staff, notamment, est très bon. On en a pas parlé, mais Brian Daboll, l'an passé, il a été élu coach de l'année du côté de New York. Donc en effet, il peut faire basculer le. Il l'a fait, en tout cas, basculer peut-être beaucoup de matchs avec son équipe du bon côté. Est-ce qu'il va le faire cette saison de nouveau? On le verra. Mais il va pouvoir de nouveau s'appuyer sur un jeu au sol qui est quand même le facteur qui fait avancer cette équipe-là. L'an passé, c'était 148,2 yards par match en 2022. Ils étaient quatrième de la ligue. Et on a l'impression qu'on a gardé plus ou moins les mêmes. Saquon Barkley est resté, Daniel Jones aussi, puisqu'on en parlera, mais c'est un quarterback qui peut courir. Raphaël, ce jeu au sol-là, du moins, il est toujours aussi convaincant.
Oui, il est toujours aussi convaincant. Il y a peu de raisons de le voir baisser en qualité. Les schémas proposés par Daboll ont l'air d'être vraiment ce qui fit, ce qui marche le mieux pour Daniel Jones et Barkley. On peut même espérer, d'un point de vue global sur le jeu au sol, que, mais peut-être vous voudrez parler de la ligne offensive plus tard, mais cette ligne offensive, potentiellement, elle peut progresser parce qu'on a deux joueurs qui entrent en deuxième année. Donc, on peut s'imaginer que ça va, qu'ils vont aussi progresser. Donc, que globalement, le jeu au sol devrait être, si ce n'est meilleur, en tout cas aussi bon que l'an dernier. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'en tout cas, New York ne devrait pas avoir trop de problèmes à nouveau courir cette saison.
Raoul, Saquon Barkley qui reste, qui revient redevient le Saquon Barkley qu'on connaît. Daniel Jones, je le disais, c'est 700 yards à la course, 7 touchdowns l'an passé au sol. Pour un quarterback, c'est énorme. C'est vrai que ce jeu au sol-là va être le facteur de cette attaque, va être ce qui va porter cette attaque.
Oui, et Raphaël l'a rapidement mentionné, mais la ligne offensive aussi participe bien à l'effort global. Ils ont prolongé leur left tackle Andrew Thomas et c'est une très bonne chose. Donc oui, le jeu au sol, ça va. Moi, c'est le forcément, puisqu'il faut trouver un pendant à tout ça, c'est peut-être le groupe de receveurs. On parlait encore hier des Lions. Moi, je trouve que le groupe de receveurs des Giants, c'est quand même pas exceptionnel parce que tu as Paris Campbell qui vient des Colts, puis derrière, tu as Darius Slayton, Isaiah Hodgins, Wandale Robinson. Il y a l'addition de Darren Waller qui, s'il est en forme, fait du bien aussi. Mais bon, là, pour le coup, j'ai plus de doutes sur ce groupe-là que sur ceux qu'on avait évoqués précédemment.
Il nous a tout mélangé. Il nous a tout mélangé. Point
Non, mais
fort, facteur X, point faible. Là, on a.
Je suis une pastille, je suis un homme pastille à moi tout
Il a
seul.
fait un full package. En effet, il a fait le paquet complet. Mais bon, ça donne le ton, monsieur. Vous avez dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui vous. En tout cas, vous étiez un petit peu moins enthousiasmé par cette équipe-là. Raoul est passé directement du côté de ce qui fait perdre cette équipe. Moi, j'aurais pu citer peut-être, je ne sais pas, Raph, si tu vas être d'accord avec moi, mais la ligne défensive, peut-être,
Ah oui, quand même.
qui peut être quelque chose qui va aider cette défense-là. On en parlera peut-être plus tard. Mais il y a en effet Kayvon Thibodeau qui continue à se développer. Il y a Ashaun Robinson qui est arrivé, on l'a dit, à l'opposé de Thibodeau. Et puis à l'intérieur, Dexter Lawrence et Leonard Williams. On sait qu'en plus, Don Martindale, le coordinateur défensif, aime beaucoup les blitz. Cette ligne défensive-là, Raph, c'est quand même quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer.
Ah bah oui, je trouve quand même il ne faudrait pas tout de suite passer à ce qui peut les faire perdre sans mentionner en tout cas ce qui peut les faire gagner cette ligne défensive. T'en as parlé, mais le duo d'intérieur Leonard Williams Dexter Lawrence, honnêtement, à l'instant T, c'est quand même pas loin de ce qui se fait de mieux dans la ligue en duo d'intérieur, je parle. Capacité à défendre la passe, en tout cas à mettre la pression et à défendre la course, c'est quand même un vrai mur qui facilite le travail des edge rushers parce que tu sais qu'au centre, il n'y a quand même pas grand-chose qui passe et ils sont en plus capables d'amener de la. Désolé, j'allais faire un vilain anglicisme avec disruption, mais d'amener un peu de bazar dans la ligne offensive adverse et d'amener un peu de confusion, en tout cas, chez les linemen offensifs adverses. Et tu l'as dit, Thibodeau a bien fini la saison. Il y a Ojulari qui doit aussi amener en pression. Moi, je trouve que cette ligne défensive-là des Giants est une escouade qui peut faire gagner des matchs à New York l'an prochain. En tout cas, sincèrement, j'y crois. J'y crois. Et juste, je me permets, petite rallonge, mais t'en as parlé vite fait en intro. Mais à mon sens, le coaching staff fait partie des raisons pour lesquelles New York peut espérer gagner des matchs. Quand on voit ce qu'a fait Brian Daboll de cette attaque l'an dernier et ce qu'a fait même, à mon sens, Wink Martindale, t'en as parlé, le coordinateur défensif, qui est un vétéran hein, dans la ligue, c'est vraiment un coordinateur défensif vétéran de la ligue, c'est quand même des coachs qui tirent le meilleur d'un groupe où tu n'as peut-être pas les plus grands talents, mais qui en tirent vraiment tout le jus et la substance, enfin voilà, vraiment tout ce que tu peux en tirer. Donc moi, j'aurais continué un petit peu les points forts.
Finalement, il y avait une liste quand même du côté des points forts. Et pour conclure ton argument, 41 sacs l'an passé, ils étaient 13e, les Giants. Il n'y a pas vraiment de raison au fait que ça change cette saison, surtout avec Martindale qui est toujours aux commandes. On le rappelle, l'ancien coordinateur défensif, notamment des Ravens. On va parler de ce qui va faire perdre cette équipe parce qu'on a senti Raoul un petit peu pressé. Je pense que tu en as encore gardé sous la pédale. Tu peux y aller. Tu peux nous dire, tu as parlé un
Ah.
petit peu de ses receveurs. Est-ce qu'il y avait autre chose, notamment, qui t'inquiétait du côté de la grosse pomme?
Pour continuer sur ce qui est un peu moins bon du côté des Giants, globalement, alors c'est vrai qu'il y a un bon duo de linemen défensifs intérieurs, mais j'ai l'impression que derrière eux, la profondeur de banc n'est pas phénoménale, et surtout derrière eux, les linebackers sont pas non plus au top de ce qu'on pourrait avoir en termes de protection contre la course. Il y a quand même, je tempère un tout petit peu parce qu'il y a la signature de Bobby Okereke des Colts qui va probablement tirer tout ça vers le haut. Mais bon, je suis pas, je vois moins cette défense contre le sol comme un vrai point fort du côté des Giants.
Défense contre le sol qui a été en difficulté l'an passé. Raph, on parle souvent de front seven, des sept défenseurs qui sont devant. Est-ce qu'on pourrait parler ici du back seven, entre guillemets,
Ouais.
avec en incluant les linebackers et les lignes arrière pour dire que c'est un vrai point faible dans cette équipe?
Oui, c'est en tout cas c'est ce qui paraît être le plus faible sur le papier du côté de New York. Un peu comme Raoul, je pense qu'Okereke sur les squads de linebacker peut apporter, mais peut-être pas suffisamment. Raoul parlait de la défense contre la course, mais je trouve même leur linebacker douteux, on va dire, sur la défense contre la passe. On sait que c'est devenu un peu important quand même en NFL d'avoir des linebackers capables de couvrir des tight ends.
Et
Bon, du
pourtant, il
côté
coûte
de...
cher au Kéréké en plus.
Ouais, peut-être qu'il va à peu près s'en sortir, mais chez Indianapolis, c'était pas sa qualité première quand même, la couverture de passe. Bon, après, on peut espérer que ça se passe bien, etc. Même si dans les schémas de Martindale, finalement, le poste de linebacker est peut-être pas le plus important que ça. Et après, oui, le backfield défensif, un peu comme toi, je suis pas vraiment fan. Maintenant, ils ont drafté au premier tour Deontay Banks. Quelle va être la porte ce rookie? Si on a un cornerback qui fait des saisons comme on a vu ces dernières années là avec Sauce Gardner, Witherspoon, etc., qui tout de suite a de l'impact, peut-être. Mais oui, globalement, comme tu l'as dit, le front seven arrière, le back seven
Back
arrière,
seven, ouais.
et ce qui pourrait ressembler à de plus faible du côté de New York, quoi.
Il
Oui,
y a
pareil.
quand même juste, je me permets de mentionner Adoree Jackson que j'aime bien par ailleurs et qui est à peu près le seul motif d'espoir de ce back seven au début de cette année, en tout cas de manière sûre.
Oui, et ça rejoint ce que disait Raph. En effet, si le rookie cornerback Deontay Banks arrive et devient cornerback numéro 1, ça donne un Adoree Jackson qui deviendrait numéro 2, ce qui donne une paire relativement compétente. Après, c'est vrai que les safeties, pour ma part, Xavier McKinney et Jason Pinnock sont un petit peu limites. On parlait, c'est vraiment le point noir pour moi. Et puis Raph, on a entendu Raoul sur le sujet, mais les receveurs notamment, les cibles à disposition de Daniel Jones, c'est vrai que c'est pas reluisant. Alors il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a Isaiah Hodgins, il y a Darius Slayton, il y a Paris Campbell, Sterling Shepard, Jamison Crowder, Jalen Hyatt qui a été drafté aussi. Mais quand on cite tout ça, est-ce qu'on a cité un véritable numéro 1?
Ouais, bah là, du coup, j'anticipe un peu, mais pour moi, c'est vraiment le facteur X de la saison du côté de New York. C'est toute cette escouade, cette ribambelle de receveurs et de tight ends. Comme toi, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai numéro 1, mais en même temps, Jalin Hyatt est un rookie. Alors, est-ce qu'il ne peut pas apporter juste ce côté numéro 1? Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la grande question. Là, si tu me demandes, je vois personne chez eux capable d'aller gagner un contre un, ou en tout cas de dominer tout un match comme les grands receveurs numéro 1 peuvent le faire. Et je le mets en facteur X parce que si jamais arrive à émerger de ce groupe le receveur numéro 1, l'attaque de New York prend une autre dimension et là tu commences à pouvoir discuter pour la suite. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est un gros point d'interrogation, cette escouade.
Lucas, si je peux me permettre, c'est mon facteur X aussi pour toutes les raisons que Raphaël a citées. Voilà.
Alors messieurs, moi je vais vous donner le mien et ça rejoint un petit peu, mais est-ce que le numéro 1, il s'appelle pas Darren Waller? Est-ce que le numéro 1, il est pas là, un tight end qui est capable de changer
Peut-être.
les défenses? On le sait, on le voit, hein, ça marche très bien du côté de Travis Kelce. Je ne dis pas que Darren Waller, c'est Travis Kelce, mais on l'a vu très très performant quand il est sur le terrain, Darren Waller. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas souvent. Il a manqué 14 matchs lors des deux dernières saisons. Mais si Darren Waller, il revient au meilleur de sa forme, est-ce qu'il ne peut pas justement élever un petit peu tout le niveau de jeu de cette attaque et de cette attaque aérienne? Je répète, et je continue la métaphore avec les Chiefs, mais il n'y a pas vraiment de receveur numéro un depuis que Tyreek est parti. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Certes, il y a Patrick Mahomes, certes, il y a Travis Kelce, mais on peut peut-être reproduire un petit peu ce schéma, Raoul?
Oui, ça me paraît pas idiot. Et tu le dis, Darren Waller est un équivalent, en tout cas, a le profil d'un receveur, tight end receveur prolifique. Donc, ouais, moi, je veux bien croire que si ça fonctionne et que ça permet à ce groupe de receveurs d'avoir des espaces et d'être peut-être un peu moins défendu homme contre homme et donc de pouvoir gagner des yards quand on a besoin, ouais, ça peut faire un truc sympa.
Raphaël, en tout cas, on a misé gros sur Darren Waller du côté de New York.
Ouais, on a misé pas mal sur lui, effectivement. T'as raison, c'est peut-être lui encore plus que les autres qui incarne ce facteur X côté aérien. Donc oui, ça peut être lui. Le schéma de Chiefs pourrait être un peu une envie de recopier. Ouais, oui.
Avec beaucoup plus de jeux au sol et avec beaucoup moins
Oui,
de Patrick
bah,
Mahomes,
ouais.
ça
Des
c'est
chips
sûr.
de la NFC, peut-être.
Bon, voilà, vous aurez compris le concept. On va parler du calendrier. Messieurs, on va commencer les Giants vont commencer à domicile face aux Cowboys, avec ensuite un déplacement du côté d'Arizona, un déplacement du côté de San Francisco, la réception des Seahawks, déplacement face aux Dolphins et aux Bills, réception des Commanders et des Jets, déplacement, trois déplacements de suite avec les Raiders, les Cowboys et les Commanders, réception des Patriots, semaine de repos, réception des Packers, déplacement à New Orleans, déplacement à Philadelphie face aux Eagles, réception des Rams, et enfin on termine avec le champion de la NFC en titre, les Eagles à domicile pour les Giants. C'est un calendrier pas facile, Raoul, tu le disais en préambule.
Ouais, effectivement, bah tu l'as dit, hein, la NFC Est, c'est quand même compliqué. Ils croisent en plus avec l'AFC Est, qui est aussi une division, je crois, encore plus relevée en NFL aujourd'hui. Donc, basé sur tout ça, j'ai quand même le sentiment qu'ils vont être un peu plus bas. Et moi, je les vois bien à 9 victoires cette année. Dur de savoir si ça fait wild card. La NFC est assez ouverte, mais bon, le titre de division, c'est injouable. Et ouais, pour moi, c'est 9 victoires.
9 victoires qui égalerait le total de victoires de l'an passé. Raph, 9 victoires aussi?
Mais il y a un nul l'an dernier.
Il y a un nul, en effet.
Ouais, j'avoue, en premier jet, je m'étais noté 8 à 9 victoires. Je peux monter à 9, je veux bien y croire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à passer le au-dessus parce que le calendrier, il croise avec l'AFC Est notamment. Les matchs à peu près de classement, c'est contre Seattle. Enfin, bon, ouais, pas facile.
Ouais, pas évident, messieurs, je vous trouve. Vous avez commencé fort en disant on n'est pas satisfait forcément de ce que va apporter les Giants, et puis vous leur donnez 9 victoires quand même. Moi, j'étais plus vers un 7 victoires, un bilan négatif, parce qu'il y a un calendrier très compliqué. Il y a certes, on l'a dit, des points forts, mais il y a quand même des points faibles qui sont criants. Et puis surtout, il y a ce côté où on a eu l'impression que la pièce est tombée quasiment tout le temps du bon côté l'an passé. S'il y a une fois ou deux où elle tombe du mauvais côté cette saison, ça peut vite. Moi j'avais 7-10, mais bah, écoutez, messieurs, je vais me
8,
plier.
partons sur 8 sinon. Moi j'étais à 8-9, donc je peux aller à 8 sans problème aussi, hein.
C'est moi qui m'emballe sur les Giants. Dans quel monde vit-on?
C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Raoul, tu acceptes de faire passer cette équipe en négatif, ou tu tiens bon?
J'accepte, messieurs. Je n'ai pas de part dans les Giants. Je n'ai rien à défendre ici.
Alors ce sera 8-9, même si on le sait, on donne un pronostic qui ne vaudra strictement rien après la première journée, hein, tout simplement, parce que tout peut changer. On le sait. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les New York Giants. Pas mal de choses à dire, en effet. Il y aura encore pas mal de choses à lire, cette fois-ci sur le site, avec la preview écrite faite par un autre rédacteur. Vous trouverez aussi tout ça sur les réseaux sociaux de Touchdown Actu, et sur les réseaux sociaux et sur le site aussi, vous pourrez trouver un lien de réservation pour réserver votre soirée du côté du 2 septembre, du côté du Hard Rock Café. Le 2 septembre, une grosse soirée qui s'organise avec Touchdown Actu notamment, avec un podcast en direct. Messieurs, vous serez là avec des questions, avec un repas aussi. C'est ça que vous pouvez réserver avec un lien notamment qui se trouve dans le petit-déj tous les matins, demain matin avec votre café, ou ce matin d'ailleurs, parce qu'on sait que le podcast arrive tôt. Ce matin avec votre café, votre thé ou que sais-je, vous pourrez réserver votre repas si vous avez encore faim pour le 2 septembre. Voilà, on sera tous là. Et c'est ainsi qu'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve demain avec les Chargers de Los Angeles. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.